Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance sur RLP 102.3 en ce jour-là de forte chaleur. Famille, justice, enfance, votre émission sur la famille contemporaine, un nouveau direct. Là, nous sommes dans les studios de Chamier sur Périgueux, dans le Périgord. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite émission. Ça faisait longtemps, là. On n'a pas parlé de placement d'enfants. On va parler de placement, à parler de, bah, cette fois-ci, du côté de ceux qui le subissent et des familles. Nous sommes avec PERB. Placement d'enfants récurrents brisés, qui est une association, vous pouvez les trouver, perb.fr sur Internet. Conseil, soutien, coaching, entraide, comment vivre et survivre lorsque, une succession, on va dire, d'événements, vos enfants, ils ne sont plus là, ils sont gérés par le département. Alors pour cela, nous avons Laetitia, nous avons Cécile depuis l'Ain, là, en banlieue de Bourg-en-Bresse. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
voilà. Et elles sont un peu timides, elles n'ont pas l'habitude. Mais... bon, allez, qui c'est qui nous explique la PERB, l'association, c'est depuis quand, c'est pourquoi? Dites-nous.
Eh bien, alors l'association, elle a ouvert ses portes le 27 août 2024.
Oui.
À la suite, en fait, de notre histoire personnelle, parce qu'on a vu qu'en fait, il y avait beaucoup d'injustices au niveau de placement. En fait, on vous arrache vos enfants du jour au lendemain, tout le ciel vous tombe sur la tête et on se demande, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça nous est tombé dessus? Et puis, ben, l'association, elle est là pour justement aider les parents, pour pas qu'ils restent seuls, pour les aider dans leur démarche. Et puis, voilà, les soutenir. Je suis un peu désolée,
T'es un petit peu émue, c'est l'effet radio, c'est pas grave. Moi, j'avais entendu parler de vous par diverses personnes, parce que vous faites de l'accompagnement. Et je crois que la grande force de votre asso... Vous faites partie, en fait, de ces initiatives individuelles qui y a un petit peu partout sur le territoire et qui essayent de remonter le moral aux gens et de les conseiller un peu et de les mettre un petit peu ensemble, hein, c'est bien ça?
C'est ça, tout à fait.
Ok. Cécile, vous faites partie de PERB. Qu'est-ce que vous faites exactement et pourquoi êtes-vous dans PERB?
Bah, effectivement, voilà, moi depuis un an et demi, j'ai perdu donc la garde de ma fille Camille. Donc, ce qui m'a amené donc à me rapprocher de l'association PERB pour laquelle je fais du bénévolat, dans le sens où j'écoute les mamans qui sont isolées, qui ont besoin d'être reconnues et entendues, voilà, aussi dans leur souffrance ou des fois dans leur parcours.
D'accord. Ok. Bon. Donc, ouais, vas-y. Vas-y. Oui. Il faut prendre
oui, donc,
l'espace.
On organise souvent des réunions, voilà, pour redonner un petit peu d'espoir aux parents qui en ont perdu, parce que des fois elles se retrouvent dans des situations vraiment dramatiques. Faut savoir que il peut arriver que les gendarmes déboulent au domicile des parents sans prévenir pour venir récupérer, arracher les enfants aux familles. Et donc, ça les place dans un très grand désarroi. Donc, on fait le maximum qu'on peut pour entendre ce désarroi et prévenir des situations qui peuvent s'avérer des fois très dramatiques.
Oui, alors ça aussi, on va le dire. Moi, ça fait une dizaine d'années que je regarde cet environnement. Je suis rentré par la porte des divorces et des conflits parentaux avec les NRE et ce genre de trucs. J'ai vu arriver le problème des placements de plus en plus dans l'environnement. Mais aujourd'hui, on assiste à un grand nombre de situations qui sont quand même extrêmement violentes. Là, effectivement, les gendarmes qui viennent chez vous pour prendre les gamins ou qui débarquent à l'école.
Tout à fait.
Et il y a absolument, comment dirais-je, on prend pas soin des parents. En fait, on vient, on récupère les gosses, mais aucun travail de communication, de coordination est effectué avec les parents qui sont en fait, on les laisse comme ça en train de pleurer chez eux après qu'on leur ait pris leur gamin. Laetitia, là, depuis ces deux ans et demi dont vous gérez l'association, vous avez vu passer grosso modo combien de dossiers, combien d'histoires de vie?
Alors, pour l'instant, on a une cinquantaine de familles.
D'accord. Ok, ça commence à être un petit retour d'expérience. Quels sont les grands points qui reviennent?
Alors, les grands points, c'est souvent la négligence, enfants en danger, et surtout, quand on place les enfants, surtout ce qui revient, c'est en fait, on casse les liens familiaux entre les parents et les enfants ou entre la fratrie.
C'est-à-dire que dans ce que vous observez, dans les justifications, dans les informations préoccupantes et autres, c'est majoritairement les affaires de négligence vers vous. Ok, donc elle dit oui, hein, comme ça, sur le visuel, mais bon, c'est ça. Par exemple
Pour des soins médicaux, en fait, un enfant, en étant parent d'enfants qui ont des comme atypiques, pour eux, en fait, on néglige nos enfants, ils ne sont pas soignés, en fait, correctement.
Alors, il y a un problème avec les enfants handicapés. Il y a un problème avec les enfants handicapés ou un peu atypiques. Très clairement, ils réfléchissent même pas, ils savent pas s'en occuper, ils viennent et ils les prennent. Ça, on voit ça de plus en plus.
C'est ça.
Okay.
Et du coup,
ce qu'il faut savoir, c'est que moi et Laetitia, nous sommes mamans de deux enfants autistes.
D'accord.
Moi, le mien, il a 18 ans et Laetitia, il est un peu moins âgé. Mais ils ont eu tous les deux des troubles autistiques. Et en fait, il faut savoir que pendant longtemps, on a attribué la cause de l'autisme aux relations avec la maman. Donc maintenant, on a un peu revenu sur ce sujet-là en disant que il faudrait peut-être explorer aussi d'autres voies pour essayer de voir, trouver d'autres origines qui soient forcément la relation de la mère, parce que c'est très culpabilisant. Ensuite, les autres sources de placement, ça peut être aussi quand il y a un conflit entre les parents, c'est-à-dire quand les parents ne s'entendent plus.
On a énormément de dossiers sur ça.
Les parents se disputent, donc s'ils se disputent, c'est plus un environnement favorable pour l'enfant, il faut l'extirper de la famille.
C'est ça, divorce qui se passe mal, conflit parental, les parents qui communiquent mal entre eux, et le département vient, il récupère les gamins et il s'en occupe. Ça c'est des choses qu'on voit de plus en plus, c'est ce que vous dites, les handicapés, donc les enfants qui sont un peu atypiques et autres, on les enlève de plus en plus à leurs parents, et puis les couples qui se séparent. D'ailleurs, moi j'ai noté que les placements très souvent intervenaient auprès de mères qui étaient isolées. Je sais pas si vous confirmez, c'est-à-dire qu'en fait, très clairement, au départ de la cellule familiale, on dégage le père. Enfin, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais nous, en tant qu'hommes, on a l'impression qu'on a de moins en moins d'accès à nos enfants parce qu'on a un week-end sur deux ou qu'on est vraiment enlevé, ou on est suspecté de ci ou de ça. Puis ensuite, la mère se retrouve seule. Et une fois qu'elle se retrouve seule, les sociaux arrivent et disent oui, mais... Et en fait, ils dégradent l'autorité parentale qu'il y a entre la mère et l'enfant. Et je vois des grands oui là sur la vidéo.
Oui, tout à fait. Puis il y a un autre souci qui émerge là depuis quelque temps, c'est le problème des mamans qui dénoncent les pères incestueux.
Oui.
Donc les mamans protectrices pensent bien faire en dénonçant les pères incestueux et elles se retrouvent privées de leur enfant qui est pour la plupart du temps confié, paradoxalement, par la justice au père incestueux.
Alors ça, je vais revenir un petit peu sur ça. Là, il y a une partie, je ne dirais pas de légende, mais nous, ce qu'on observe, c'est que dans les accusations d'inceste, il y a deux types d'accusations d'inceste qui se font une fois que les parents sont séparés ou qui ne s'entendent pas. Il y a les accusations malveillantes afin d'essayer d'avoir plus de droits et d'enlever les droits au père. C'est insupportable.
Mais ça peut arriver aussi.
Absolument. Oui. Mais pareil, comme les autres, ça met 3 ou 4 ans d'instruction durant lesquels il y a un flou qui se passe. Et il y a beaucoup de dégâts qui se passent aussi. Et il y a aussi les affaires qui, elles, sont réelles, avec certificat médical, preuve absolument incontestable. On en voit passer, nous aussi. Et là aussi, ça prend 3 ou 4 ans où il ne se passe absolument rien. On le voit dans l'actualité et autres. Et dans les deux cas, le fait qu'il ne se passe absolument rien et que, quoi qu'il se passe, les parents soient désignés coupables, soit parce qu'ils sont en train d'accuser pour rien, soit parce qu'ils n'ont pas su protéger l'enfant, et bien à la fin, ils perdent les enfants, dans les deux cas.
Alors moi, je voulais ajouter un petit truc, c'est que même quand, en fait, une enquête pénale est terminée, même si c'est prouvé que les parents ne sont pas maltraitants ou négligents, ça passe en placement administratif. Ça veut dire qu'on ne vous rend pas votre enfant.
Oui.
On va trouver une autre excuse pour le laisser placer.
Absolument, absolument. Normalement, information préoccupante, le procureur est saisi, nous avons un doute, nous voulons savoir ce qui s'est passé. Le procureur mandate le juge des enfants avec un enquêteur ou une enquêtrice. Il se passe, bon, alors maintenant on est monté à des délais, enfin, vous je ne sais pas, mais nous ici on est à 3, 4, 5 ans hein, avant que la loi dise, s'exprime et dise c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais le problème, c'est que dans les cas où c'est pas vrai, qu'il y a eu jugement, que c'est classé, normalement, le juge des enfants devrait se dessaisir. Il devrait se dessaisir et l'enfant devrait revenir en famille. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'il revient pas.
Non, du tout. Non, effectivement, il y a très peu de retours.
Ah, une fois qu'ils sont une fois qu'ils ont fait plus d'un an, ils reviennent pas, en fait.
Ouais. Donc, ça dépend de la situation, ça c'est pareil, ça dépend comment les parents abordent, je veux dire, les choses avec les professionnels. Mmh. C'est pas toujours évident hein, d'aller à un rendez-vous avec un professionnel et puis écouter leurs mensonges, parce qu'il y a beaucoup de rapports de faux en écriture aussi. Il y a beaucoup de...
Il y a beaucoup d'incertitudes, de médiocrité, d'approximation. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Ouais.
Donc voilà, mais ça reste que toujours les parents sont abandonnés, seuls après un placement. La parole de l'enfant, on l'écoute avant le placement, mais après le placement, on ne l'écoute plus. Ça, c'est une autre chose.
Ah, mais une fois que l'enfant est placé, il a plus on en parlera après. Ouais. Oui, allez-y, Cécile.
Oui, il y a un problème aussi, un thème que je voudrais aborder, c'est la séparation des fratries. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs enfants d'une même fratrie qui sont placés, souvent ils sont placés dans des foyers différents et ils n'ont plus aucune relation entre eux.
Ouais. Donc là, effectivement, on a vu, pour diverses raisons et autres, l'État intervient et les gendarmes viennent ou autres, et puis hop, les enfants y disparaissent. Et ensuite, on va effectivement aborder ce point-là. Nous avons des codes de procédure, que ce soit des codes de procédure pénale, des codes de procédure civile. Nous avons des articles de loi. Nous avons aussi une espèce de code de la famille qui est il n'est pas si publié que ça, mais les sociaux, normalement, ont des procédures et ont des choses à suivre et autres. Donc nous, on essaie de regarder, pour que ce soit compréhensible, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les cas, etc. et autres. Et bon, je connais déjà la réponse, mais comme c'est un peu votre regard que j'interroge, est-ce que, en fait, les articles de loi, les codes sont respectés? Est-ce que les manières de faire qui ont été décidées à haut niveau sont respectées?
Non, rien n'est respecté, que ce soit au niveau des liens familiaux, que ce soit au niveau respecter le jugement. Par exemple, le fameux PPE, ça je ne sais pas pourquoi ça marche toujours. Et ce PPE, c'est un outil important dans le placement, parce que c'est des objectifs pour avoir un retour à domicile. Et sans ce PPE, ben en fait, il y a une loi dessus. Il doit être élaboré aux 3 mois du placement de l'enfant.
PPE, projet pédagogique pour l'enfant, qui est normalement un document co-signé par les services et par les parents, qui explique le projet pédagogique et ce qu'on est censé essayer de faire, parce que le social, c'est éducateur, c'est éduquer. On est dans un truc, voilà. Et c'est censé être une ligne directrice, c'est un outil de communication entre un intervenant. Et ce document, effectivement, on en connaît certains qui l'ont vu. Voilà.
Moi, c'est pour ça que j'ai le goût. Je me bats avec ça, avec mes parents, en fait, pour qu'ils puissent avoir ce projet pour l'enfant, en fait, parce que tous les parents qu'on a en visio, personne ne connaît le PPE.
Non. Bah, le projet, c'est enlever l'enfant. C'est pas, visiblement, il n'y a rien d'autre. Hein,
Oui, c'est ça le problème.
Alors, normalement, la loi dit qu'on ne sépare pas les frères et les sœurs.
Normalement. Mmh. Alors, après, normalement, il y a la loi Taquet, hein. Mmh. La loi Taquet 2016, pour la réunification des fratries, comme on dit, et puis aussi pour les liens, parce que ça, c'est pareil, hein, entre réunir les fratries, ça, c'est pareil, respecté. Soi-disant, ils n'ont pas de place. Voilà, c'est toujours comme ça, en fait. Il y a toujours une excuse. Ou c'est trop loin, ou c'est pas adapté pour l'enfant. Il y a toujours une excuse, en fait, valable.
Et normalement, avant de faire un placement, on doit étudier les solutions alternatives, l'entourage, la famille, ce genre de choses, sauf si on fait un placement temporaire. Et nous, on a remarqué que très souvent, les juges font un placement temporaire, ils étendent le placement temporaire, ça leur évite de passer par un placement, sur le fond, le placement temporaire ne devrait pas dépasser 6 mois normalement. Hein. Le placement sur le fond, lui, normalement, est soumis à tout un tas de régulations et qu'ils ne font pas, en fait.
Le placement temporaire, je ne connaissais pas moi, puisque nous, on est passé par des placements provisoires, on appelle ça.
Et oui, c'est des renouvellements. D'accord, oui, mais c'est pareil, c'est 6 mois normalement.
Non, nous, c'est J'ai eu beaucoup plus, 1 an, 2 ans, 3 ans.
C'est ça. Mais vous regardez le code. Normalement, c'est 6 mois. Sur un placement prononcé sur le fonds, lui, peut être étendu année par année, mais un placement temporaire provisoire n'est que sur 6 mois. Et ils passent par cette astuce-là parce que comme ça, ils n'ont pas à suivre ce que leur impose normalement le placement sur le fonds. Donc là, vous avez un petit outil juridique. Là, si jamais il y a un avocat qui accepte d'aller contre son environnement, vous pouvez lui dire que si c'est un placement provisoire qui avait plus de 6 mois, normalement, il saute. Hein. Mais bon.
Alors, il aurait dû sauter le nôtre, alors.
Ben, beaucoup. énormément.
Voilà. Parce qu'il y en a, ils sont à 2 ans de placement.
Et est-ce que vous avez vu, vous, des enfants qui ont été placés au niveau de la famille, au niveau des grands-parents, des oncles, des tantes? Parce que normalement, ils sont prioritaires par rapport au département. Vous en avez vu?
Oui, mais très peu. Très peu. En fait, la justice, à chaque fois que les parents viennent nous voir, ils nous disent « mais normalement, on ne passe pas par un tiers digne de confiance en premier ben, ». Je dis « si ». Mais le problème, c'est qu'en fait, ils ne respectent rien, ils ne font pas d'enquête, ils ne font rien du tout et ils placent l'enfant.
D'accord.
En foyer, ils ne favorisent pas la famille, en fait.
D'accord. Et ils passent par des procédures d'urgence qui leur évitent de faire justement ce travail d'analyse en amont.
Voilà. D'accord. Ils ne font plus d'enquête, ils ne font plus rien, en fait. Ils ne se cassent plus la tête, en fait. C'est ça, c'est… Je place pour placer. Des fois, on a eu des motifs de maman parce qu'elle travaillait trop ou parce qu'elle était trop fusionnelle avec son enfant.
Dans un grand mot aussi, ça.
Donc voilà, c'est... On ne dit pas. Hein. On ne dit pas qu'il n'y a pas des placements qui sont justifiés. On n'est pas contre ça du tout. Mais il faudrait qu'en fait, les professionnels fassent déjà une enquête avant de placer un enfant.
Elle est faite, mais très souvent par des gens qui n'ont aucune notion d'éducatif ou qui n'ont pas eu d'enfants, puisqu'en fait, ils ont séparé les divers services. Ceux qui font les enquêtes assistantes sociales ne sont pas les mêmes personnes qui font les AEMO, qui ne sont pas les mêmes personnes qui gèrent les placements. Et ils ne travaillent pas ensemble. Donc,
En fait, les enquêtes ne sont pas faites avant, elles sont faites après le placement.
Certaines fois, oui.
Beaucoup. On a beaucoup là, les dossiers. Il n'y a aucune fois où j'ai vu une enquête qui a été menée avant.
D'accord. Oh, j'en ai vu. Ils sont venus, là, ils ont regardé l'appartement un peu comme ça, là, des trucs, c'est un peu morbide, on n'aime pas la tête de mort sur le mur dans le cadre, là, poum. On a vu des prétextes de placement qui sont un peu hallucinants, mais parfois, il y en a en amont, il y a une étude. Ouais.
Oui, et puis on vous oblige, en fait, on vous oblige à travailler sur des choses qui n'existent pas.
C'est-à-dire ?
Et on dit qu'on ne collabore pas. Après.
Alors, après, on va aborder ce thème-là, qui est un grand thème aussi, c'est travailler avec les services. Le fameux point qu'on entend tout le temps, le problème de la posture du parent par rapport aux services. Une fois que les services sont venus, qu'ils sont actifs, est-ce que vraiment le but, c'est de faire revenir l'enfant ? Est-ce que le parent est impliqué dans le suivi de son enfant ? Qu'est-ce que vous observez, vous ?
Vas-y, Cécile, si tu veux prendre un peu la parole.
Oui, ben moi je trouve que les relations sont extrêmement tendues. Elles se font malheureusement pas dans la bienveillance. Moi j'ai eu des personnes qui venaient faire des visites à domicile, elles ne voulaient même pas s'asseoir à table avec nous pour discuter. Elles restaient debout, voilà. Et même une personne qui m'a dit « moi je veux pas discuter avec vous ici, il faut qu'on discute à l'extérieur ». Donc j'étais obligée de parler de mes problèmes personnels et intimes familiaux dans un bar.
Devant tout le monde, oui.
Voilà. Devant tout le monde, voilà. C'est très, très compliqué, en fait. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit fait dans la bienveillance. On nous dit toujours, oui, on a pour projet la restitution de l'enfant à la famille, mais j'ai l'impression que c'est qu'une posture, en fait. Parce qu'il faut savoir aussi, il y a un autre aspect, c'est que l'enfant rapporte de l'argent au conseil départemental. Ça, il faut le savoir.
Le département dépense de l'argent pour l'enfant. Ça lui coûte de l'argent. Ce n'est pas que ça lui rapporte. Le département paye la protection de l'enfance. Ça rapporte à des associations qui ont des délégations de services d'État.
Il y a quand même 9 milliards de dotations. Il y a 9 milliards de dotations qui sont données pour les services de protection de l'aide à l'enfance par l'État.
Je veux dire, le département, ce n'est pas du bénef pour lui. Le département, il gère ce budget et il paye des prestataires. Alors après, je vous suis, il y a un business énorme et innommable. Hein. On a des scandales de manière assez régulière par rapport à des foyers, des assos, des structures non contrôlées et autres. Mais on ne peut pas dire que le département, chaque fois que le département prend un enfant, il encaisse des sous. Ça, on peut peut pas le dire. À chaque fois que le département il prend un enfant, il doit dépenser des sous. C'est pas lui directement qui gagne de ça.
Moi, de mon côté, par exemple, je peux vous citer le fait que pour mes enfants, il doit être attribué un budget de 50 euros pour la vêture. Et mes enfants portent majoritairement des vêtements d'occasion.
Oui, non mais ça après, l'utilisation avec de l'argent, c'est ça.
Avec le nom barré.
Non mais ça, voilà. Je peux l'entendre. C'est l'utilisation de l'argent et après est discutable. Ça, je peux l'entendre tout à fait. Il y a des scandales financiers par rapport à ça. Nous, on demande une traçabilité de l'argent public par rapport à, pour qu'on soit certain que l'argent aille pour les
voilà,
enfants. Absolument, d'accord. Mais je veux dire, le département s'enrichit. C'est difficile. Enfin, c'est plus complexe que ça, quoi. C'est voilà. Mais la question initiale,
j'ai
c'était.
J'ai quand même l'impression que les enfants sont devenus un peu une variable d'ajustement budgétaire. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis à moi.
Ah, il y a beaucoup de chefs de service qui font de la gestion de service au fichier Excel. Ça, je suis d'accord. Ça existe. Et quand une structure est présente et que le département s'engage à ce que 100% des lits disponibles soient attribués, il y a des conséquences et il y a une petite odeur. Ça, ça je suis d'accord. Oui, oui. Dit comme ça, c'est entendable. Oui.
Je suis d'accord aussi. Non,
moi,
et donc, la question, c'était, quand on fait du soutien et du suivi par rapport à des enfants, à des familles comme ça et autres, est-ce que vraiment ces familles ont l'impression d'être impliquées dans la vie de leur enfant ou est-ce que leur enfant s'éloigne? Comment ça se passe?
Non, et c'est plutôt...
Ah ben, souvent...
C'est aussi loin.
Oui,
on a l'impression que les parents s'éloignent de leur enfant. On les fait s'éloigner, en fait. Votre enfant ne veut pas vous voir, votre enfant ne veut pas vous parler. Ouais. C'est toujours ça qu'on retient, en fait.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que organiser des rendez-vous entre les parents, entre les fratries, c'est du travail.
Ouais.
Et donc, ils ne sont pas toujours dans cette démarche-là. Même faire les suivis médicaux, des fois, c'est compliqué. Moi, par exemple, j'ai vu ma fille il y a deux jours. C'est elle qui m'a appris qu'elle allait recevoir avec un vaccin. C'est pas le docteur qui m'a appelé pour me demander l'autorisation de vacciner ma fille. Je l'ai appris de la bouche de ma fille elle-même, quoi. Et voilà, il y a plein de choses dont je, même étant titulaire de l'autorité parentale, je n'ai plus droit de vue sur ma fille au niveau scolaire, par exemple.
Vous avez
ils
pas
ne
les
font
notes,
pas le lien au niveau scolaire.
D'accord.
J'ai pas les notes, voilà. J'ai éventuellement eu des documents à remplir pour avoir la photo de classe. À Pâques, j'ai eu un document à remplir si j'avais voulu acheter des œufs de Pâques ou du chocolat, voilà, des choses comme ça. Mais au niveau purement scolaire, je n'ai pas de traçabilité, si vous voulez.
D'accord.
Et même pire, au début, l'éducatrice me disait « si vous voulez voir la maîtresse, ce sera uniquement en ma présence, je vous interdis de voir la maîtresse sans moi ».
D'accord.
Ça, c'est des choses qu'on voit souvent aussi, mais normalement, c'est parce qu'en fait, les référents, les professionnels, donnent des consignes aux écoles, en fait. Et certains parents ne peuvent pas suivre la scolarité de leurs enfants.
Est-ce que vous avez des dossiers de pouponnières? Nous, on va remonter des témoignages de plus en plus des femmes isolées qui vont accoucher, et soit parce qu'elles font une petite dépression post-natale, soit parce qu'elles sont vues comme isolées et autres, on leur retire le bébé dans la pouponnière. Vous avez déjà vu ça?
Alors, j'ai déjà eu quelques dossiers de mamans qu'on leur a enlevé son enfant à la naissance pour un problème de portage.
Pour un problème de
portage du bébé.
C'est-à-dire?
Comment elle portait son bébé, c'était pas correctement, c'était dangereux.
Ah d'accord.
Voilà.
Elle portait mal
donc,
le bébé.
Fait,
donc
voilà, on en revient à des reproches un peu futiles, quoi. Vraiment, la manière dont on porte le bébé, ça ne justifie en aucun cas de placer l'enfant.
On pourrait peut-être lui expliquer comment faire déjà avant de lui prendre le bébé. Je veux dire, on pourrait commencer par ça, peut-être.
Voilà, tout à fait.
Ou aussi, on a le cas de parents qui ont un handicap. Ils sont sous curatelle, on leur enlève leurs enfants.
Les
aussi,
sourds. Nous, on a eu beaucoup de problèmes avec des personnes qui étaient sourdes, qui n'avaient pas d'interprète dans les tribunaux, au familial ou aux enfants. Et donc, comme ils n'entendaient pas et comme ils avaient du mal à s'exprimer, ils passaient pour des gens qui étaient incapables et donc on leur enlevait leurs enfants.
Voilà, exactement. En fait, un parent qui va avoir un petit handicap physique ou mental, les parents ne sont pas capables de s'occuper de leur enfant, alors qu'ils gèrent bien.
Bon, écoutez, donc vous, ce que vous faites, c'est vous répondez aux personnes qui sont confrontées à ce genre de choses, et puis vous faites de l'entraide, c'est de faire du soutien, parce que c'est difficile hein, quand on est parent et que les enfants disparaissent comme ça, chic-clac. Puis qu'en plus, régulièrement, les nouvelles qui arrivent, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, parce que l'enfant ne le vit pas toujours bien. La majorité des dossiers que vous avez vus, les enfants, ils sont heureux là où ils sont, ils deviennent ingénieurs, ils sont bien scolarisés, ils sont en bonne santé.
Non, en fait, quand ils sortent, déjà psychologiquement, ils sont détruits, donc il faut rattraper tout ça. Ou ils finissent en délinquance, ou en prostitution pour les filles, ou la drogue.
D'accord, ouais, ça il faut le dire.
Voilà, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, je peux vous citer l'exemple de ma fille qui a 6 ans actuellement. Et donc, j'ai été informée par la référente ASE que ma fille se faisait toucher les parties intimes par un autre enfant placé.
Ah d'accord, elle est venue vous le dire, ce qui vous a fait beaucoup de bien. Et parce qu'en plus, oui, les nouvelles qui nous reviennent ne sont pas forcément géniales. Après, on ne va pas donner trop de cas particuliers avec
voilà
les noms.
Voilà le
et
genre
tout,
de nouvelles que j'ai.
Mais oui,
donc, voilà.
Et c'est le genre et de nouvelles que les parents ont. Voilà. Parce qu'il y a énormément de problèmes dans ces structures d'attouchement et de violence, énormément. Et on a en fait les informations qui nous reviennent par rapport à ça. Et donc, on se demande si vraiment les enfants vont mieux une fois qu'ils sont là-bas. Ouais.
Non, c'est pire. Et en fait... La violence dans les structures, plus les violences autres, c'est en fait une banalité. C'est devenu une banalité, c'est normalisé en fait.
Oui.
C'est normal.
D'ailleurs, il n'y a plus d'enquête qui est faite. Les enfants n'ont plus de droits quand ils sont là-bas. On ne peut plus porter plainte pour attouchement. On ne peut plus porter plainte pour coups et blessures. Une fois qu'ils sont dans ces structures-là, c'est fini. Il n'y a plus de recours.
Alors, si on y arrive, c'est que la plainte, elle sera classée sans suite.
Ouais,
pour étouffer à l'intérieur.
Moi, par exemple, je me suis octroyé les services d'un avocat qui m'avait dit, écoutez, pour essayer de récupérer votre enfant, vu qu'elle n'est pas dans une structure qui soit sécure et contenant, on va demander en fait au juge une audience anticipée pour la faire revenir à la maison. Et il fallait, dans le cadre de cette demande d'audience anticipée, faire un dépôt de plainte. Quand je me suis présentée au commissariat, le policier m'a carrément découragée de porter plainte pour ma fille, en me disant que de toute façon, la plainte serait classée sans suite.
Ouais, porter plainte contre le département.
Or, c'est pas son travail.
Ouais.
Voilà, c'est pas son travail au policier de nous déconseiller. C'est au juge après d'intervenir pour dire si oui ou non la plainte est recevable ou pas.
Tiens, vite fait, là, j'ai oublié ce thème-là, il nous reste moins d'une minute, mais on va quand même aborder ça. Les placements, tout ça, lorsque les sociaux viennent dans vos vies et tout, ça coûte de l'argent. Je veux dire, au niveau avocat et tout, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que, généralement, on fait faillite et on nous prend ce qu'on a ?
Ça dépend des familles, ça dépend des ressources. Il y a des familles qui vont dépasser le seuil, en fait, pour une aide juridictionnelle, elles ne pourront pas prendre d'avocat parce que ça va les ruiner. Donc, ils se défendent tout seuls.
Donc, ceux qui sont pauvres restent aux minima sociaux et la justice est gratuite, avec la faible performance. Et ceux, par contre, qui ont des ressources, eux, doivent payer. Et là, ils payent, par contre.
Voilà.
Par exemple, moi, j'ai dû avancer 2000 euros de ma poche pour m'octroyer les services d'un avocat.
Pour une audience, pour deux audiences, pour tout le dossier ?
Une audience.
Pour tout le dossier.
Ah, d'accord. Bon, généralement, c'est 1500 balles l'audience. Hein. Ouais. Puis s'il y en a deux ou trois par an, ok. Bon, comment est-ce qu'on vous joint si jamais on veut devenir compagnon d'infortune et puis essayer de faire du soutien commun ? Donc on va sur...
Un petit contact. Vous pouvez nous contacter par mail et il y a aussi un numéro de téléphone en bas.
Ok. Bon, j'espère qu'on n'a pas trop démoli le moral des gens, là. Laetitia, Cécile, en tout cas, merci pour ce que vous faites, parce que moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on vit une grande injustice, il faut aller aider les autres. C'est aussi une façon de s'aider soi-même, mais ça fait aussi du bien aux autres. Si vous vivez un gros souci, restez pas tout seul. Allez voir des personnes avec qui vous discutez. On est plus fort à plusieurs.
Oui.
Peut-être que ça changera pas grand chose à l'inéluctable, mais au moins, vous serez pas seul, quoi. Et vous comprendrez que c'est pas de votre faute à vous, forcément. Voilà.
Voilà, tout à fait.
Tout à fait.
Restez pas seul.
Bon.
Restez surtout pas seul.
Mesdames, bonne soirée et aux auditeurs, à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci, bonne soirée.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.